Le 13e printemps des poètes vient de s'achever. Le thème retenu cette année était les infinis paysages. Il n'est donc pas trop tard ce soir pour mettre à l'honneur un poète, mais surtout le créateur et l'animateur impénitent d'une revue de poésie qui compte dans l'univers des poètes. C'est la revue Décharge qui fête cette année ses 30 ans d'existence. Et puis encore un anniversaire qu'on va pouvoir fêter avec lui ce soir devant les micros de Radio, puisqu'il est arrivé en Bourgogne il y a maintenant 20 ans. Jacques Morin, bonsoir.
Bonsoir.
Bonsoir Jacques, nous allons nous tutoyer parce que nous nous connaissons depuis quelques années. Et Jacques, je suis très heureux d'accueillir l'auteur d'un livre qui est sorti l'hiver dernier aux éditions Rhubarbe, ouvrage attendu, j'allais dire livre de commande de la part de ton complice, ami et éditeur Alain Kévès. Le titre de ton livre, La poésie de A à Z selon Jacques Mau, aux éditions Rhubarbe. Alors, Jacques, ce n'est pas ton premier livre, parce que la bibliographie qui ouvre La poésie de A à Z est éloquente et révèle finalement une activité d'écriture extrêmement diverse, aussi bien dans la poésie que dans la critique, et puis bien sûr, ton activité de revuiste, mais nous y reviendrons au cours de l'entretien. Première question très, très brutale, que serait Jacques Morin sans l'écriture?
Une question bien difficile.
Est-ce que ce serait un homme incomplet, un homme déséquilibré, un être malheureux et frustré?
Disons que j'ai du mal à m'imaginer sans l'écriture, puisque ça fait quand même un peu la partie la plus importante, de ma vie, culturelle. Mais je pense que j'aurais pu être tout à fait autre chose, donc ne pas écrire, peut-être être footballeur, ou je ne sais pas. Donc c'est vrai que ça, c'est parti comme ça parce que j'avais certainement des envies d'écrire très tôt, très jeune, et puis donc ça m'a plu, ça s'est confirmé, et puis je me suis vraiment lancé là-dedans. Mais qui dit qu'après tout, si j'avais été, mettons sur Auxerre, parce que je suis pour Auxerre de naissance, si j'avais été à côté de la JOR, je ne serais pas devenu un footballeur, parce que... Oui, ça aurait très bien pu aller dans ce sens-là.
Alors, dans la poésie de A à Z, selon Jacques Mau, avec des illustrations de Denis Pellegrini, tu reviens sur ce que tu appelles ta minuscule épopée.
Oui.
Et quelque part, Jacques, puisque c'est Alain Kévès, éditeur, ami, collaborateur aussi à tes côtés à la revue Décharge, dès ses débuts, dans les premières années de la création de Décharge, est-ce que ça ne t'a pas paru justement terriblement ambitieux de parler de poésie, toi qui y baignes depuis finalement la classe de 6e?
Oui, alors donc c'était pas si ambitieux que ça, si j'étais bien vraiment dedans. Non, disons que c'était une minuscule épopée, donc tu vois bien un petit peu l'oxymore à l'intérieur de la chose, et j'ai voulu en parler parce que je pense que je connais assez bien la poésie, mais j'ai rajouté entre parenthèses, selon Jacques Mau, c'est-à-dire que selon ma façon de le procéder. Donc c'est vrai que c'est pas la poésie, on va dire, officielle, la poésie plus académique, ou même plus peut-être celle à laquelle on pourrait s'attendre en général. Donc j'ai voulu faire ça à mon échelle, il y a peut-être une échelle minuscule, mais c'était celle qui m'intéressait. Et je pense que c'est celle qui intéressait mon éditeur, qui a fait cette commande.
Donc c'est une défense et illustration de la poésie contemporaine.
Plus que contemporaine, puisque je dirais que ça correspond vraiment à ma vie depuis, on va dire, 40 ans que je baigne dans la poésie. Je pense un peu, je défends un peu ce que j'ai toujours défendu, donc ça ne se veut pas la poésie officielle, la poésie classique, littéraire, la poésie la plus connue. Moi je pense que je défends une poésie qui est vraiment encore souterraine et peu réputé, mais avec des auteurs, je pense, à l'intérieur qui, ils ont un petit peu de chance, passeront quand même le cap un peu de la réputation réelle un peu plus tard.
Alors, il faut expliquer aux auditrices et auditeurs de Radion que le livre se présente comme un abécédaire.
Oui, c'est la poésie de A à Z.
C'est la poésie de A à Z, un abécédaire, et puis deuxième partie du livre, donc un choix personnel qui a dû être, à mon avis, très difficile.
Alors, voilà.
Une mini-anthologie créée de toutes pièces, dictée par tes choix personnels, ça a dû être très délicat.
Disons que, bon, dans un premier temps, j'ai voulu faire là, de A à Z. Alors là, j'ai été très. Bon, on m'avait commandé ça, moi je suis très sérieux. Hein, j'ai voulu qu'il y ait toutes les lettres qui soient illustrées, donc ça n'a pas été facile pour les plus difficiles que genre W, X, Y, Z. Parce que
pour le cas, c'était facile avec Kevin.
Oui, exactement. J'avais Kraft aussi d'ailleurs, parce que bon. Mais disons que, bon, mais il y avait certaines lettres, c'est vrai que j'ai eu du mal un petit peu à trouver l'entrée. Et puis évidemment, j'avais des auteurs qui arrivaient dans ma tête, et j'ai trouvé que c'était un petit peu, enfin, difficile de tout mélanger. Petit à petit est venue l'idée plus simple de couper en deux le livre et de faire une deuxième partie avec les auteurs qui me semblaient, il y en a 33 hein, si je me souviens bien, 33, donc j'ai sélectionné sur plein d'auteurs que je connais. Bon, on va dire que dans ma revue hein, des charges, j'ai publié là, j'ai un auteur qui suit ça de près, j'ai publié plus de 1000 auteurs actuellement. Et je voulais donc vraiment concentrer un peu ceux qui m'ont semblé le plus important. Donc ça n'a pas été évident toujours, parce que certains ont été rejetés alors qu'ils auraient pu rentrer, d'autres sont dedans, alors peut-être c'était pas la meilleure utilité qu'ils y soient. Enfin bon, tu vois, j'ai quand même essayé de trouver un concentré d'auteurs. 33, c'est peu. Et c'est vrai que ceux qui sont dedans me tiennent tous à cœur vraiment. Et, enfin, pour ceux qui sont encore vivants, parce qu'il y en a une dizaine qui sont morts, ils sont, je crois, assez flattés, même dirons-nous, d'y être. Voilà.
Alors, ce qui est formidable aussi à travers cet écrit, donc la poésie de A à Z selon Jacques Maud, signé Jacques Morin aux éditions Rubard, c'est que ça nous permet de te découvrir et d'apprendre. Toi qui es quand même quelqu'un de réservé, tu dis même que tu es un timide.
Oui.
Quand tu as rencontré Alain Quevès dans le même établissement scolaire, tu dis que vous avez mis un certain temps avant de vous parler. Il y avait une certaine timidité d'un côté comme de l'autre.
Oui, tout à fait, parce que je pense qu'Alain était comme moi. Bon, il était aussi féru de littérature, intéressé par ça, mais on se fuyait quelque part. Bon, on n'osait pas se dire que ça nous intéressait l'un comme l'autre. Et ça s'est fait donc au moment d'ailleurs où il a été primé d'une façon très prestigieuse. Et à ce moment-là, bon, on a pu se parler vraiment directement, sinon on s'évitait quelque part. Ouais.
Je ne sais pas pourquoi la pluie quitte là-haut ses oripeaux que sont les lourds nuages gris pour se coucher sur nos coteaux. Je ne sais pas pourquoi le vent s'amuse dans les matins clairs à colporter les rires d'enfants, carillons frêles de l'hiver. Je ne sais rien de tout cela, mais je sais que je t'aime encore. Je ne sais pas pourquoi la route qui me pousse vers la cité a l'odeur fade des déroutes de peupliers en peupliers. Je ne sais pas pourquoi le voile du brouillard glacé qui m'escorte me fait penser aux cathédrales où l'on prie pour les amours mortes. Je ne sais rien de tout cela, mais je sais que je t'aime encore. Je ne sais pas pourquoi ces rues s'ouvrent devant moi une à une, vierges et froides, froides et nues, rien que mes pas et pas de lune. Je ne sais pas pourquoi la nuit, jouant de moi comme guitare, m'a forcé à venir ici pour pleurer devant cette gare. Je ne sais rien de tout cela, mais je sais que je t'aime encore. Je ne sais pas à quelle heure part ce triste train pour Amsterdam, qu'un couple doit prendre ce soir, un couple dont tu es la femme. Et je ne sais pas pour quel port part d'Amsterdam ce grand navire qui brise mon cœur et mon corps, notre amour et mon avenir. Je ne sais rien de tout cela, mais je sais que je t'aime encore, mais je sais que je t'aime encore.
Je ne sais pas, de Jacques Brel, un choix de notre invité ce soir devant les micros de Radion, Jacques Morin, à l'occasion de la sortie de son dernier livre aux éditions Rhubarbe, La poésie de A à Z, selon Jacques Mau.
Alors Jacques, tu es né au début des années 50, en région parisienne, si j'ai bien lu, et très rapidement, au tout début du livre, tu parles de la banlieue, qui est le décor qui a marqué ton enfance, où tu parles d'une vie simple et peu confortable, qui a été la tienne dans ta jeunesse, et tu parles de la cité de la muette, là où est mort le poète Max Jacob en mars 1944. Alors, la banlieue, c'est quelque chose, c'est un souvenir douloureux et surtout marqué par le fait que c'est lié à une certaine période de l'occupation peu glorieuse pour notre pays.
Alors moi, j'ai vécu d'abord, je suis né à Paris, à Belleville, qui a beaucoup changé d'ailleurs depuis que je n'y suis plus. Et ensuite, je suis parti donc vers l'âge de 10 ans à Drancy. Et Drancy, bon, donc c'est, pour moi, c'est le cœur du 9-3. Et c'est là que j'ai vécu. D'ailleurs, j'ai vécu dans un petit pavillon, tout à fait cossu, dans un quartier pavillonnaire plutôt sympa. Mais c'est vrai que c'était très proche de la cité de la Muette en question, où je l'ai su plus tard, parce que bon, quand j'étais petit, bon, c'était des choses. D'ailleurs, on parlait beaucoup moins un petit peu de tout ce qui s'était passé pendant la guerre à ce moment-là. Ça restait un petit peu plus confiné, plus secret. Et je crois que le chagrin et la pitié est sorti dans les années 80, simplement. Donc c'est vrai qu'il y a eu toute une sorte d'ouverture un peu à tout ce qui s'était passé durant l'occupation, qui n'était pas évident. Et j'ai, moi, découvert donc, cette cité de la Muette, enfin, sous son angle le plus terrible. Plus tard, alors que j'avais des gens, des copains qui vivaient dedans, et on imaginait, parce qu'il y a des photos quand même qui témoignent de ça, les gens qui étaient dans la cour, qui étaient derrière des barbelés, c'était horrible. Et c'est vrai que, entre autres, beaucoup de gens sont quand même passés par là avant de partir.
Oui, c'était un camp d'internement.
Provisoire, de transition, avant de partir vers.
Vers le camp de la mort.
Exactement. Donc, en passant par Bobigny. Et tout ça, c'est là où j'ai vécu petit. Et c'est vrai que. Alors, ça, c'est d'un côté, ça a donné une sorte de dramatisation à mon adolescence, mais que je n'ai pas forcément senti quand je l'ai vécu. Par contre, la banlieue, pour moi, c'était un petit peu un côté un peu gris, un peu triste, un peu uniforme, un peu solitaire, qui résonnait beaucoup dans ma tête par rapport à la poésie, qui était un peu déjà dans ce que je recherchais.
Et tu as souhaité aussi à ce qu'elle figure sur la couverture de ton livre.
Alors ça, c'est un petit peu différent, puisque c'est Denis Pellegrini qui a fait la couverture, qui lui a choisi un peu cette orientation. Et c'est vrai que là, on a, il m'a dit d'ailleurs l'autre fois, que la couverture représente un morceau d'un bâtiment de la Muette, justement. Mais c'est lui qui a vu ça. Alors il y a une sorte de contraste, on va pas faire on n'a pas l'image, mais on voit donc... un arbre qui surgit au centre, il y a une sorte de contraste qui est très réussi par rapport un peu à pas mal de choses que je veux dire.
Oui, il y a la verticalité de l'arbre, l'horizontalité de l'immeuble.
Exactement, et puis un peu la
pierre, la ville.
Voilà, le côté de la nature, la ville, etc.
Alors, Jacques, tu parles de toi comme d'un gamin solitaire et farouche, et tu dis effectivement que tu étais un rêveur, un lunaire, tu l'es d'ailleurs toujours un peu.
Oui. Je suis toujours un petit peu. Je pense que c'est un peu la poésie qui fait qu'on est un petit peu en dehors du temps. Alors, d'un côté, c'est, je pense, une des plus grandes choses qu'on peut bénéficier, parce que être en dehors de la vie et vivre un peu de ce qui nous plaît, c'est formidable. Et en même temps, c'est vrai qu'on n'est pas tout à fait dans les clous de la vie ordinaire, donc on est un peu perdu par rapport aux autres qui ne s'imaginent pas qu'on puisse vivre comme ça.
Et tu es l'homme d'une autre planète. D'ailleurs, tu ne caches pas. que tu as une sorte de d'affection pour le personnage du Pierrot de la Commedia dell'arte.
Oui, oui, parce qu'il y a toujours un peu ce côté décalé. Bon, je pense que ça, c'est un peu le... Bon, enfin, je ne vais pas faire l'image un peu, on va dire, stéréotypée du poète, mais enfin, bon, je pense que je suis un peu décalé, un petit peu comme ça. Bon, j'en tire pas gloire, d'ailleurs, mais c'est comme ça. C'est vraiment dans la poésie, dans un peu ce qu'on peut faire dans une revue, dans des textes, dans la lecture, etc., que je me sens mieux. Et c'est bon... pas forcément l'ordinaire, je répète, de tout un chacun.
Alors, en mai 68, tu es un tout jeune homme. Oui. Tu as 18 ans. Mmh. 18 ans en 68. Et tu écris, par rapport à ces années un peu de plomb dans une France de droite, hein, nous débattions entre un mai 68 plein de promesses et une période terne de Pompidou en Giscard d'Estaing, symbolisant une droite dure et affligeante. Très peu ouverte à la culture, couvercle et tout foire.
Mmh. Oui, bah, de toute façon, c'était vrai que là,
et
j'avais.
C'est mieux aujourd'hui.
Genre. Justement, là, je pense que on a eu, bon, on va dire en allant à très grand trait, on a eu l'ouverture avec un peu, la phase Mitterrand. Bon, on a pensé comme ça, et c'est vrai qu'il y a eu quand même. Bon, on a un peu ouvert les fenêtres. Enfin, c'était vraiment, c'était terrible auparavant. Et puis bon, bah, là je cours un peu les septennats de septennats en septennats.
Et les quinquennats maintenant.
Voilà, en quinquennat actuellement, mais c'est assez récent justement. Et Chirac, bon, déjà il y a une sorte un petit peu de baisse, puis alors bon, là on tombe dans Sarkozy, bon là le septennat n'est même pas fini, c'est une véritable catastrophe au point de vue de la culture. Bon, bon voilà, donc là on revient encore plus bas que nous étions dans ces années de Giscard d'Estaing.
Alors revenons à la culture, l'éducation, la tienne, Jacques, un beau parcours, Hippocagne au lycée Voltaire à Paris en 69-70, avec quelqu'un qui va devenir aussi une figure, c'est Jean-Marc de Benedetti.
Oui, alors bon, c'est quelqu'un qui était dans ma classe, hein, donc on était tous les deux, lui était beaucoup plus porté sur le, on va dire sur le surréalisme, il est devenu bon, assez brillant, hein, bon, de toute façon c'est un peu perdu de vue, mais c'est un peu grâce à lui... que j'ai pu rentrer dans une première revue à Nanterre qui s'appelait Soror, hein, dont je fais état d'ailleurs dans mon parcours. Et puis après ça, bon, c'est un petit peu. Enfin, on n'était pas tellement d'accord, pas tellement du même milieu d'ailleurs, on va dire. Et donc, on s'est un peu séparés. Mais bon, je garde un petit peu, enfin, je le salue en passant, s'il nous écoute. Et parce que c'est un peu grâce à lui qu'il m'a mis un peu le pied à l'étrier par rapport, non pas à la poésie, mais par rapport un peu à des gens qui travaillaient dans la poésie, qui m'ont donné envie de faire une revue à mon tour.
Alors la revue Soror, donc c'est la revue de l'université de Nanterre, Jacques, comme tu l'as dit, et c'est là où tu es publié pour la première fois, donc en 1972.
Oh, plutôt, je crois, enfin 69, il me semble. Enfin, je ne sais plus, hein, c'est dans ces eaux-là, oui, je pourrais avoir. Si tu as les dates, ça doit être les bonnes. Mais bon, c'est la première fois que je publie un texte, et c'est vrai que ce texte dans cette revue. Je me mets toujours un peu à la place de jeunes auteurs que je publie actuellement. Bon, quand on se lit pour la première fois dans une revue, bon, c'est une revue renéotée, enfin à l'époque elle était vraiment pas terrible, mais oh, quel plaisir, quel bonheur, voilà.
Et, une jubilation.
Une jubilation extrême, et je sais que chaque fois que je publie un texte d'un nouvel auteur, il a le même sentiment, aujourd'hui, enfin depuis des années que je le fais. Et on est toujours redevable à la première revue ou à la première personne qui nous a publié, parce que c'est vraiment quelque chose de bon, d'ineffable.
Petite rue qui mène au bout du port, en face de l'atelier des dentelières, en haut de l'escalier qui monte à la verrière, Loulou est restée chez elle hier au soir encore. La pluie sous la lumière des lampadaires tombait sur les vélos rangés dehors, adossés au mur le long du magasin de sport. Je Je suis resté assis comme ça au moins une heure entière. Loulou a changé sa vie et son décor. Elle dit qu'elle a trouvé enfin son nécessaire. Et ses nouveaux amis valent mieux que ceux d'hier. On pouvait voir passer le rombo sur le stade. C'était comme une soirée d'anniversaire. On les entendait rire jusqu'au dehors. Et puis la pluie est partie doucement avec le vent du nord. Je suis rentré tranquille à pied sous la nuit claire. Et toi qui vis toujours dans ton imaginaire, toi qui te promènes partout l'air abattu, ce serait bien que tu comprennes maintenant qu'il n'y a plus rien à faire, que tu retrouves un jour ou l'autre ta raison perdue.
Excellente soirée sur Radion, Wagon Livre, votre émission littéraire chaque mercredi de 21h à 22h. À l'instant, c'était William Scheller qui interprétait Loulou, un choix de notre invité.
Toujours avec Jacques Morin, qui est ce soir notre invité dans Wagon Livre, l'émission littéraire de Radion, pour parler de son dernier ouvrage aux éditions Rhubarbe, La poésie de A à Z selon Jacques Beau. Alors, effectivement, vous avez bien compris qu'il y avait deux parties dans le livre de notre invité Jacques Morin. Il y a d'abord donc l'abécédaire, où Jacques passe en revue toutes les lettres de l'alphabet qui renvoient à des noms, des titres de revues, à un parcours personnel et intellectuel. Et puis, il y a la deuxième partie où Jacques Morin a fait donc un choix de 30 auteurs. Alors, Jacques, je te donne la parole pour lire quelques textes des auteurs que tu as mis en valeur dans ta mini-anthologie.
Alors, je vais en lire quelques-uns. Il y a 33 auteurs, hein, puis bon, il y a plusieurs textes parfois de chaque auteur. Donc là, je vais lire un premier auteur qui est un poète alsacien, qui s'appelle Jean-Paul Clay, que nous avons rencontré d'ailleurs il y a peu avec Alain, mon éditeur, à Colmar. C'était un peu le... Enfin, c'était pas étonnant qu'il soit là, parce qu'il était alsacien, il pouvait être à Colmar, tout à fait. Enfin, disons, bon, on savait pas qu'on allait le rencontrer. Et voilà, donc il écrit ce texte, parmi d'autres, et qui s'appelle « Refaire les pneus », et qui est un texte, moi, que je trouve très rigolo, et voilà. Ça prouve aussi la poésie telle qu'elle est dans ce que j'aime bien publier, à savoir que c'est pas forcément une poésie rigide, figée, dramatique, mais ça peut être ça aussi. Refaire les pneus. Sac de nœuds. J'ai les pieds mouillés, semelles trouées. Il faut m'acheter souliers neufs. Or, ça fait une semaine ou deux, j'en caresse le projet. Avec l'auto, j'ai été hors la cité, là où l'on voit des chaussures par milliers. Format, couleur, femme, sport, enfantelet. Vite, je voudrais le modèle de l'an dernier. Quant à Luxeuil, j'allais. On va me trouver ça ? Non, il n'y a que 43, et moi il me faut du 46. Alors tant pis, on est là, debout, le pied nu, et la vendeuse déclare qu'elle est désolée, qu'il y a le même dépôt à Célestat et Strasbourg et Haguenau. Sûrement vous trouverez. Quelle affaire donc c'est ? Tout va dans le compliqué. Pour l'amuser un peu, j'ai parlé de la mère de Charlemagne, qui s'appelait Berthe au grand pied. Si jamais elle vient ici, pourrez-vous la chaussurer ? Ah oui, elle n'avait qu'un seul pied grand. Ne lui dites rien, sinon le fiston vous tombera sur le dos, il vous expédie à Roncevaux, et ça finirait mal pour vous. M'écoutant étonné, la vendeuse a pris son pied. L'auto m'a réchauffé, comme si c'était pantoufle protégée de la pluie, et je suis reparti dans l'horizon, où médiocrement je survis. Sac de nœuds, messager vaguement merveilleux, traversé du ciel bleu. Voilà, donc ça c'est un auteur parmi d'autres.
Peut-être, Jacques, pourrais-tu nous proposer une autre lecture, s'il te plaît ?
Alors, un autre auteur, peu près, enfin, du même âge d'ailleurs, hein, Jean-Pierre Jor, ils sont soixantenaires, on va dire environ. Alors lui, c'est un poète de Chinon, hein, donc pour le situer, hein, c'est pas très loin. Lui, va, Jean-Pierre Jor, c'est davantage, on va dire, de l'ironie grinçante, un peu, oui, je parle d'humour noir, voilà, hein, c'est un peu ça. Et là, un texte qu'il a lu récemment, Bazoche en Morvan, que j'ai redécouvert quand il l'a lu, parce que c'est vrai que sa lecture était tout à fait superbe, et un texte que je prends dans mon anthologie, que je lis à présent. Promesse. Il fallait fermer par deux fois à clé derrière soi. La promesse d'amour coupait le souffle, et il était difficile d'articuler une parole. L'acte aurait lieu dans du sombre et sur du dur, dans un espace trop vaste, où l'on eût escompté une température plus amène. Les lèvres livraient vite tout leur suc, et la frénésie des mains commençait. La première paume appliquée directement sur de la peau nue n'aurait redouté la concurrence d'aucune autre sensation plus forte. Mais sourd à cet argument, l'apparent désordre des caresses se résolvait précipitamment en une appropriation éhontée des sexes. Le déshabillage était bâclé. Un jean trop serré se serait déchiré plutôt que de glisser en douceur. Et une chaussure prise dans la toile travaillait de toutes ses forces au fiasco. Quand enfin deux corps étrangement blancs luisaient, l'amour apparaissait dans sa terrifiante crudité. Il faudrait alors accomplir cette chose sans poésie dans un environnement déplorable. Je ne sais pas, un troisième texte peut-être ?
Allons-y pour un troisième texte.
Alors là, c'est un texte d'Armand Oliven qui est un peu plus long. Hein. Alors Armand Oliven, j'en dis quelques mots, hein, c'était un poète qui était en même temps psychanalyste, donc tout à fait, c'est le père de Denis Oliven et le frère du docteur Olivenstein, donc c'est quelqu'un, vous voyez, donc, d'envergure tout à fait étonnante, et qui était très très cultivé au point de vue poétique, et qui connaissait plein de choses sur la poésie médiévale, et donc quelqu'un qui aimait écrire d'une façon tout à fait bizarre et amusante, comme dans ce texte qui s'appelle « Vin blanc, au vin blanc hein, ». Vin, le chiffre blanc, et au vin blanc, bon, qu'on connaît bien dans Chablis.
Donc vous allez, tous les deux, donc c'est formidable, Jacques Morin et l'éditeur Alain Quévez,
en duo.
Ce texte en duo pour les auditrices et auditeurs de Wagon Livre, l'émission littéraire de Radio.
D'abord, le Yougoslave, puis l'Albanais. L'italien, le danois, le finnois, le scandinave. Ensuite, l'hongrois, le bulgare, le roumain, le tchécoslovaque, le russe, l'ukrainien, le suisse, le portugais, le polonais, l'autrichien. Vin blanc aux oignons, aux calvinistes, aux dominicains, aux taxidermes fusibles, aux reptiles chiromanciens. Ondoyez-les tous, le dimanche reconnaîtra les siens. Les années textiles, ils sont invengeables. Les années bissextiles, ils sont chauvins. Les années marinières, ils sont tarissables. Les années sessiles, ils ne sont pas au point.
Éthique du chou qui bave, tatouage des crépins, beau de nuit, bonnes à rien, tour de jambes, rond de main. Vins blancs aux vins blancs, au blaire dans les nuages, au scalp dans les foins, banquier de la bohème, enrôleur d'assassins, au bagnard, au beignet, au chips, au boudin.
À feu dans le carreau, à sang dans les parpaings, le nez sur l'excrément, l'œil à la gringonaude, inspecteur de crottin, purifié de purin, vin blanc au macaque, au miel de chou, de chêne rouvre, à la matelote de cheville, à la chevrotine de caprin, au primate, au déprimate, au pactole pour nécromancien.
La patate réverbère la poire, le képi réverbère le chien, le lusitanien réverbère le scandinave, le gallois réverbère l'indo-végétarien. La prison jute, le foutre est dans l'acier. Ils osent bouillir, ils osent faire exsuder. Vins blancs à l'extrait de capre, au jus de vampire, à l'essence d'orphelin, aigrisseur de champagne, sourineur de roses pompons, source inépuisable de larmes et de spasmes, centrale de trocution.
Vins blancs au vin palme, à la mort mémorable, à la fin balisable, à la carotte et au bâton, vin blanc au vin blanc. Plus feu que le faisan, plus flamme que le saumon, aux étés inextinguibles, au cartilage des bouvillons, les sept sagesses du pilier, les cent fantômes de la divinification.
Merci Alain Quévez, merci Jacques Morin pour cette lecture, effectivement, à deux voix ce soir devant les micros de Radion. On va marquer une pause musicale. Je rappelle que les pauses musicales de l'émission de ce soir ont été choisies par notre invité Jacques Morin, qui évoque la poésie de A à Z selon Jacques Mauss, son dernier livre paru aux éditions Rhubarbe.
Il y avait des temps et des temps, je ne m'étais pas servi de mes dents, je ne mettais pas de vin dans mon eau, ni de charbon dans mon fourneau. Tous les croque-morts silencieux me dévoraient déjà des yeux. Ma dernière heure allait sonner, c'est alors que j'ai mal tourné. N'y allant pas par quatre chemins, j'estourbisane un tournemain. En un coup de bûche excessif, un octambule à nord massif. Les chats fourrés, quand ils l'ont su, m'ont posé la patte dessus. Pour m'envoyer à la santé, me refaire une honnêteté. Machin, chose, un tel, une telle, tous du commun des mortels furent d'avis que j'aurais dû en bonne justice être pendu à la lanterne et sur le champ. Ils se voyaient déjà partageant, m'accordant tout bien tout honneur en guise de porte-bonheur. Au bout d'un siècle, on m'a jeté à la porte de la santé. Comme je suis sentimental, je retourne au quartier natal, baissant le nez, rasant les murs, mal à l'aise sur mes fémurs, m'attendant à voir les humains se détourner de mon chemin. Il y en a un qui m'a dit « Salut, te revoir, on n'y comptait plus. » Il y en a un qui m'a demandé des nouvelles de ma santé. Alors j'ai vu qu'il restait encore du monde et du beau monde sur terre. Et j'ai pleuré le cul par terre, toutes les larmes de mon corps.
Vous l'aurez reconnu, c'était bien sûr Georges Brassens qui interprétait celui qui a mal tourné. On commémorera cette année d'ailleurs le 30e anniversaire de sa mort, puisque le libertaire qu'était Georges Brassens, cet homme de tolérance qui redoutait tous les fanatismes et se méfiait des dogmes, est mort le 29 octobre 1981. À ce sujet d'ailleurs, c'est Georges Brassens qui avait fait découvrir au romancier René Fallet mon oncle Benjamin de Clotilliers, dont l'action se situe essentiellement du côté de Clamecy. Excellente soirée à toutes et à tous. La suite de Wagon Livre, votre émission littéraire, en compagnie de notre invité, Jacques Morin, pour parler de son dernier livre, La poésie de A à Z, selon Jacques Mauss, paru aux éditions Rhubarbe.
Alors Jacques, hier soir, à la bibliothèque municipale, avec Alain Quévez, tu présentais devant le public La poésie de A à Z, selon Jacques Mauss. Et j'aimerais, justement, puisque tu es ce soir à nos côtés, revenir sur la conception de la poésie. Il y a quelques minutes, tu as lu avec Alain des textes où apparaissent des gros mots. La poésie contemporaine ou la poésie très actuelle, de même qu'il y a des musiques, on parle beaucoup de musique contemporaine, la poésie contemporaine, qu'est-ce qu'elle est aujourd'hui ? Est-ce qu'elle est en totale rupture avec ce que nous avons appris à l'école, c'est-à-dire, j'allais dire presque une image un peu figée, extrêmement carrée, très délimitée de ce que devait être la poésie.
Oui, alors si je comprends bien ta question, c'est que...
Oui, enfin, d'un côté, j'ai pas vraiment posé de question, Jacques. Mais
D'où la difficulté à y répondre. Oui, enfin, je pense que la poésie, bon, telle que je la défends finalement, hein, selon Jacques Maud, c'est un peu ce qui se passe aujourd'hui, quoi. C'est un peu, moi, mon travail quand même, c'est de lire un peu tous les manuscrits que je peux recevoir. Donc c'est vraiment des auteurs qui commencent, alors qu'il faut c'est très très mauvais, parce que bon, c'est des débutants, puis bon, ils n'ont pas eux-mêmes la curiosité de lire un peu ce qui se passait dans la poésie actuelle. Et donc, moi, je suis un type en train de chercher une poésie qui frémit, en quelque sorte. Donc, elle est pas forcément très, très éloignée de ce qu'on a pu apprendre à l'école, hein, de ce qu'on a pu enseigner, mais il y a quand même tout un travail qui s'est fait entre cette étape-là et aujourd'hui. Donc, il y a eu quand même pas mal de choses qui se sont produites, qui se sont faites. Et la difficulté qu'on a, je pense, aujourd'hui, c'est que la poésie est très émiettée, très diffuse, très différente. Et on a du mal un peu à se... à pouvoir justement la cerner tellement elle est profuse.
Dans ton livre, Jacques, tu ne parles pas tellement de Ronsard, tu ne parles pas tellement de la poésie du XVIe, tu ne parles pas beaucoup de la Pléiade, tu ne parles pas du poème dramatique. Tu commences à parler de poésie, Baudelaire, donc forcément tu parles de la poésie, ce qu'on appelle la poésie moderne, c'est-à-dire celle qui met en avant la dissonance, où le beau est toujours bizarre. Tout à l'heure, je parlais de gros mots. Par exemple, la Vénus anadiomène qui est belle hideusement d'un ulcère à l'anus, par exemple. Ou le poème Une charogne. Tu t'inscris plus dans la continuité de cette poésie de révolté, cette poésie du voyant, la voyance rimbaldienne.
Oui, alors bon, si tu veux, toi, mais à la limite, j'ai même pas cette prétention d'aller aussi loin dans le temps. Enfin, Baudelaire, Rimbaud, c'est très bien.
Tu cites Apollinaire, oui, la constellation surréaliste, et puis oui. Tu parles de Michaud. Quoi.
Oui, tout à fait. Donc, toi, finalement, j'en reviens finalement relativement proche, surtout par rapport à ma date de naissance, au XXe siècle. Hein. Donc, j'en remonte même pas au XIXe. Mais bon, tout cela, c'est ce que tu dis est exact. Bon, je ne renie nullement ni Baudelaire, ni Rimbaud, ni Verlaine, ni Mallarmé, ni d'autres encore. Mais si tu veux, je suis bon. Plus dans maintenant en 2011, toi, à savoir que je pense que la poésie a beaucoup changé, beaucoup évolué, beaucoup avancé, avec donc ces grandes étapes. Pour moi, Apollinaire, c'est vraiment quelqu'un de très important. Bon, les surréalistes, évidemment, ça a été un feu d'artifice. Et c'est vrai que bon, parmi les poètes les plus récents qui m'ont beaucoup marqué quand j'étais jeune, hein, t'entends bien, c'est Michaud. Michaud, bon, je trouve qu'il a quelqu'un qui m'a beaucoup apporté. J'ai trouvé qu'il était extrêmement riche dans tous les aspects de son écriture. Et donc, très modestement, parce que je ne me prétends pas, moi, à ce niveau-là, mais j'essaye un petit peu de continuer ce terrain-là, chercher un peu. Et dans...
Donc tu es un découvreur. Tu voudrais être, en
oui,
tout cas...
Oui, je vais même là, soyons un peu prétentieux, je suis un petit peu, par rapport aux auteurs que j'ai pris dans cette anthologie, bon, qui auront la réputation qu'ils auront dans quelques centaines d'années, je ne sais pas, mais... Il y a des gens comme ça que j'ai découverts et qui, bon, après, évidemment, ils sont pas restés à mon niveau, ils ont été bien au-delà et qui sont... Et j'avais eu l'intuition que c'était quand même des gens importants. Bon, ça devait pas être très difficile, d'ailleurs. Hein. Je pense que quiconque aurait fait la même chose que moi. Bon, j'ai eu la chance de tomber sur eux à ce moment-là. Et,
Alors, tu penses, par exemple, Catherine Maffaro, Pierre Autin-Grenier...
Oui, enfin, bon...
Paul Guéret, Lionel...
Oui, alors... Tous les gens que tu cites ne sont pas les meilleurs exemples, parce que ce sont des gens qui étaient déjà... plus établis. Donc moi, j'ai été sur leur parcours, mais ce n'est pas forcément grâce à moi qu'ils ont pu... Mais si tu prends par exemple Pierre Autin-Grenier, bon, qui est peut-être un des auteurs les plus illustres qu'on publie, bon, qui lui a publié maintenant 4 livres à folio, donc bon, je pense qu'il a quand même une certaine réputation, puis un style bien marqué. Bon... Il était, c'est vrai, très branché petite revue à un moment donné, et c'est là que je l'ai publié. Mais il n'y avait pas que chez moi, il publiait un peu partout. Je sais que quand Thierry Guichard du Matricule 10 ans, j'ai été l'interroger chez lui, il avait une malle pleine de petites revues dans lesquelles il avait publié plein de textes, mais j'en faisais partie. Et c'est vrai que ça a contribué, ça a un peu aidé à le faire connaître, très modestement. Mais moi, par contre, c'est vrai que ça m'a un peu intéressé de voir un peu son parcours par la suite. Et il a été longtemps, bon, maintenant c'est un peu moins le cas aujourd'hui, mais à suivre un peu ce que je faisais, par reconnaissance quelque part. Donc, il y avait ce côté un peu sympathique et amical de sa part.
Pardonne-moi d'insister, Jacques, mais tu nous fais bien comprendre dans la poésie de A à Z, selon Jacques Mau, que la poésie, pour toi, n'est pas qu'une métrique, n'est pas qu'une versification. Et en fait, ce que tu refuses, c'est les contraintes et les entraves. Donc, tu appelles.
Oui. Alors, ça, je crois que ça va être en débat, parce que là, c'est en train, justement, là, je remets ça un petit peu là, actuellement sur le site. Je sens que ça agace quelque part certains autres revuistes ici ou là. Et je pense que ça va faire un peu débat, bon, enfin, toujours dans notre petit monde, hein, mais à nouveau. Parce que, bon, j'ai fait un peu exprès dans le livre de mettre cette affirmation. Moi, j'ai toujours été un petit peu. Bon. Quand j'ai commencé à écrire, j'écris, la première fois que j'ai écrit, j'écris des sonnets. Hein, donc, quand mon prof de français en 6e m'a montré comment marchait un sonnet, je ne savais pas à l'époque, j'ai trouvé ça formidable. J'ai trouvé ça extraordinaire. Je dis, bon, c'est quelque chose de très compliqué. En même temps, ça donne un truc très, très réussi. Et je me suis appliqué avec des sonnets, ABBA, bon, 4 fois la rime, pas évident. Et bon, voilà. Donc, je connais bien la métrique. C'est quelque chose qui m'a passionné, la versification. Et puis, je me suis rendu compte, au bout d'un moment, c'était certainement très artificiel. Il ne fallait pas que le texte soit pris dans un corset tout prêt, tout fait, dans une sorte de patron, dans lequel il n'est plus du tout. Enfin, il soit tellement pris qu'il n'arrive plus à vraiment sortir, à jaillir. Et petit à petit, d'ailleurs, j'ai suivi finalement l'évolution de la poésie française très rapidement, puisque bon. Qu'est-ce qui s'est passé par la suite? Bon, le vers a été démantibulé, on est passé au vers libre, et puis après ça, un peu au poème en prose, etc. Puis bon, maintenant, une poésie comme ça qui n'a plus vraiment de contraintes. Alors, j'estime toujours que ceux qui en reviennent un petit peu au vers, c'est toujours un peu, je trouve, un peu rassis quelque part, un peu rétrograde, et quelque, même contradictoire. Et je tiens à dire, parce que c'est vrai que c'est un peu, je dirais, alors c'est peut-être un peu facile, mais quand on fait des rimes, on est conduit à chercher la rime suivante. Parce que forcément, il faut que ça tombe bien. Hein, ça roule pas de soi-même. Bon, il y avait Victor Hugo qui arrivait à écrire des alexandrins sans chercher forcément ce qu'il allait dire, parce que c'était tellement dans sa tête, les rimes étaient tellement faites, le rythme était tellement acquis, qu'il arrivait à écrire comme ça sans se casser la tête, vraiment, ça, c'était ce qu'il voulait dire. Mais bon, il n'y a pas grand monde qui est Victor Hugo. Et donc, je pense que maintenant, quand on écrit en vers, bon, forcément, il y a la rime, la deuxième, hein, j'entends bien, qui doit être là en contrepoint, il faut la chercher. Alors, quelquefois, pour tomber dessus, bon, bah, on va zigzaguer plutôt que de la trouver plus facilement. Et je prends comme exemple le mot arbre, parce qu'il n'y a qu'une seule rime à arbre. J'aime cet exemple-là, parce que forcément, quand on voit un vers qui finit par arbre, on sait que la rime suivante sera forcément.
Marbre.
Exactement. Très bien, Yannick. Bravo.
Mais tu donnes quelques coups de griffe aussi, notamment à la génération montante des rappeurs. Tu dis qu'ils ont le mérite de. Bon, il y a quelques créations originales.
Oui.
Mais tu dis quand même que ça cache la misère de textes indigents, oui. Le plus souvent rehaussés seulement par la musique et le spectacle.
Exactement, oui. Enfin, je ne dis pas ça pour tout le monde. Puis bon, d'abord, je ne connais pas ni tous les slameurs, ni tous les rappeurs. Ça ne m'intéresse pas trop, finalement. Mais c'est vrai que. Quand j'écoute, mettons même Grand Corps Malade, qui est bon, un des plus connus, etc. Mais je trouve qu'il est formidablement accompagné. Mais si ces textes étaient à nu, quelquefois on trouve des chevilles, on trouve des choses, bon, c'est pas le plus mauvais, hein, loin de là. Mais c'est à nu, enfin, je veux dire que le texte sur feuille, hein, ok, ça serait pas mal. Bon. Mais bon, là, on tombe un peu dans des rimes plates, des vers simples, etc. Et bon, tout le monde trouve ça extraordinaire, alors qu'on retombe à des choses, je trouve, bon, qu'on ne supporterait pas dans une revue de poésie.
T'avais les mains comme des raquettes, pépé. Et quand je te faisais les ongles, je voyais des fleurs dans ta barbiche. T'avais les oreilles de Gainsbourg, Mais toi, t'avais pas besoin de scotch pour les replier la nuit. Tandis que lui, ben oui. Pépé, 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 t'avais les yeux comme des lucarnes, pépé. Comme on en voit dans le port d'Anvers, quand les marins ont l'âme verte et qu'il leur faut des yeux de rechange pour regarder la nuit des autres, comme on regardait un chimpanzé chez les ferrés. Pépé, 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 t'avais le cœur comme un tambour, pépé, de ceux qu'on voile le vendredi saint vers les 3 heures après-midi. Pour regarder Jésus machin souffler sur ses 33 bougies, tandis que toi t'en avais 8 le 7 avril de 68. Pépé, pépé. Je voudrais avoir les mains de la mort, pépé, et puis les yeux, et puis le cœur, et m'en venir coucher chez toi. Ça changerait rien à mon décor. On couche toujours avec des morts. On couche toujours avec des morts. On couche toujours avec des morts. On couche toujours avec des morts.
Sur Radio, votre émission littéraire. Notre invité ce soir, Jacques Morin, pour La poésie de A à Z selon Jacques Mau aux éditions Rhubarbe. L'heure tourne, Jacques, et il faut tout de même que nous nous arrêtions sur ton antipathie profonde pour ceux qui se proclament poètes. Ça, ça peut surprendre. Je hais les poètes. Alors, provocation, sans doute.
Oui, enfin, je ne sais pas s'il faut lire le texte plutôt ou que j'en parle, mais... Si tu veux, bon, ce que j'aime pas dans cette appellation, c'est ceux qui se prennent pour des poètes, avec tout ce côté un peu compassé, prétentieux, hautain. Alors là, je ne supporte pas, parce que bon, je pense que le poète, il est un peu comme tout le monde, hein, là-dessus, à savoir qu'il écrit des poèmes, puis c'est tout. Bon, il n'y a pas de hauteur à prendre autre que cela. C'est tout.
Et peut-être pourrais-tu nous lire le chapitre poète.
Alors peut-être que ça dirait mieux que ce que je pourrais dire oralement. Je hais les poètes, ceux qui se prennent pour des poètes, qui parlent d'eux comme des poètes, qui se sont mis une bonne fois pour toutes dans la peau du poète. Je ne sais ce qui m'agace le plus au juste, c'est chez ce genre d'individu, ça se situe dans le hiatus infime et vertigineux entre la suffisance et la vanité. Cette satisfaction de bénéficier de l'infime rumeur courant dans leur dos à ce propos, cette complaisance à se regarder le nombril, qui pourtant demeure bien le symbole de la perpétuité et de l'universalité, je hais les poètes qui se prennent au sérieux, parce que s'il y a quelque chose qui n'est pas sérieux, c'est bien de se prendre pour un poète. Ils ont une très haute opinion d'eux-mêmes, ce n'est pas donné à tout le monde, et ils peuvent traverser la société à la façon de ces animaux qui toisent, plastronnent et se pavanent. Ils croient posséder une espèce de plus-value par rapport à l'écrivain lambda, certainement un restant de l'idée du poète inspiré par les dieux, c'est dire l'archaïsme de la chose. Ils méconnaissent l'humilité, n'admirent qu'eux-mêmes et ne s'intéressent qu'à celui qui s'intéressera en retour. Et lorsqu'ils accordent cet intérêt réciproque, c'est bien en pensant dans leur fort intérieur que des deux, c'est encore eux les meilleurs. Ces auteurs hautains en réussiraient à dégoûter tout lecteur de la poésie. Il faut les fuir comme la peste. Ce sont les pires messagers pour enterrer le concept. Je hais les poètes, ils ne méritent que la consternation qu'ils m'inspirent.
Revenons sur la grande aventure de Décharge. Décharge, c'est ton addiction, Jacques, depuis plus de 30 ans maintenant.
Oui, faut pas dire ça, parce que bon, ma femme me dans ce sens-là. Bon.
Alors, qu'est-ce que le revuisme, Jacques? Tu dis que le revuisme est une attitude militante en poésie. Mais qu'est-ce que ça veut dire, une attitude militante en poésie? Ça fait peur tout de suite.
Oui, oh, oui ça dépend.
Tout de suite, les grands mots, oui. Militante en poésie.
Oui, non, ce que je veux dire par là, c'est que... j'entends par là, c'est la
c'est
ténacité.
En fait, c'est
oui,
ça.
Mais c'est la ténacité.
Persévérance.
Persévérance, exactement. Parce que faire une revue, bon, c'est se donner justement le temps de la faire réellement. À savoir, ça comporte un peu, bon, je ne sais pas si le lecteur s'en rend compte souvent, mais un peu toutes les basses besognes de la chose. À savoir que, bon, une revue, ça ne se fait pas comme ça. Et donc, ça demande beaucoup de temps de lecture. Et encore, c'est du plaisir.
Il y a l'artisanat, toi, ses débuts, en fait.
Et puis après, il y a tout le travail de mise en place, que maintenant je fais de moins en moins, puisque maintenant je passe par un imprimeur, donc c'est beaucoup plus facile, hein. Je reçois le bouquin tout fait, j'ai plus qu'un... Mais bon, il faut quand même déjà finir la chose, à savoir mettre dans les enveloppes, mettre les adresses, etc. Bon, Alain connaît ça aussi bien que moi. Donc tout ça, c'est pas forcément un travail très, très reluisant, enfin très agréable, hein. Bon, mais il faut le faire, sinon évidemment ça marche plus. Et donc, il y a toute la trésorerie, enfin bon, je m'occupe de tout. Le suivi un peu des auteurs, des abonnés, etc. Enfin, tout un truc comme ça qui est bon, qui n'est pas du tout intéressant en soi, bon, mais qui fait... Si on ne le fait pas, la revue ne marche plus.
Donc le numéro 149 vient de sortir. La revue des charges, c'est 4 numéros par an.
Oui.
C'est 10 000 pages depuis sa création, donc en 1981. C'est 1 000 auteurs, comme tu l'as dit, Jacques. C'est aussi un site internet créé en 2006, deschargeslarevue.com. Et alors, le numéro 150 approche, Jacques.
Oui, alors, le numéro 150 approche. Alors, disons que... Alors, bon, en soi, c'est déjà quelque chose de bon d'étonnant, parce que c'est vrai que quand j'en étais arrivé au numéro 100, toute la période précédente, il y en était avec une couverture craft, un peu plus, on va dire, artisanale, rudimentaire, avant de passer à l'imprimerie, je pensais pas forcément continuer... Enfin, d'abord, je pensais ne pas continuer du tout au numéro 100, s'il y avait cette transformation, une revue un peu plus reluisante. Et puis après ça, je ne pensais pas de nouveau repartir pour 12 ans, 13 ans avec ce nouveau format. Et donc, c'est ce qui est le cas maintenant. Et donc là, j'en suis bientôt au numéro 150. Bon, alors je ne sais pas combien de temps ça va durer encore, parce qu'on ne peut jamais se fixer. Bon, mais bon pour l'instant, je n'ai pas envie d'arrêter. Hein, donc, et le 150, ça me permet de faire un hors-série, c'est-à-dire quelque chose en plus. Je vais faire un numéro... puisque j'ai de l'argent, parce que bon, ça marche quand même pas mal, finalement. Donc, il faut bien que cet argent serve à quelque chose.
Même si tu aides les banques, tu détestes les
oui,
banques.
Bah oui, mais enfin bon, l'argent venant... Maintenant, je marche sans subvention, donc toi, ça marche bien, relativement.
Alors, un petit commentaire sur le choix du titre de cette revue,
oui.
Décharge délibérément provocateur et iconoclaste.
Oui, tout à fait, oui, parce que de nouveau, un petit peu pour les mêmes raisons, déjà un peu autour de la poésie rythmique, etc., à savoir que je voulais un titre qui ne soit pas du tout fleur bleue, florilège, quelque chose qui soit dans le sens coucher de soleil, ce qui est poétique ou réputé comme poétique habituellement. Donc j'ai cherché un titre qui soit polysémique, hein, avec plusieurs sens à l'intérieur, et qui soit fort en même temps, et un peu provocateur, tout à fait, et j'ai trouvé des charges. Et c'est vrai que ce titre-là, bon, s'est imposé, du moment que je l'avais trouvé, c'était le titre rapide, court, fort, qui ne m'a jamais déçu finalement. Bon, si maintenant évidemment c'est devenu répétitif à l'infini, mais bon. Et je me souviens que bon, un de nos amis, enfin, ou ennemis revuistes, avait trouvé un titre un peu semblable, mais un peu dans le même esprit, qui s'appelait Casse, avec un peu la même intuition polysémique, le casse, bon, le cambriolage, la casse de voiture, la casse évidemment pour l'imprimerie, la typographie. C'était un bon titre aussi, mais copié un peu sur le mien, je pense.
Jacques, nous arrivons presque au terme de cette émission. Un petit mot aussi, hommage à Alain Quévez, parce qu'il y a une entrée Quévez. Alors Alain, c'est à la fois aussi le complice, l'ami, c'est le critique, c'est l'auteur, c'est l'éditeur.
Ah, c'est beaucoup de choses à la fois, hein. Mais non, mais ce qui
est là, donc
oui, tout à fait. Donc je peux pas dire de bêtises ni du mal, mais non, ce qui était très important. Bon, d'abord, il y a un peu tout notre parcours, enfin complice, on va dire, depuis maintenant pas mal d'années. Et puis c'est vrai que c'est lui qui m'a proposé, bon, de faire ça, la poésie de A à Z. C'est Alain qui me l'a proposé. Jamais je n'aurais pensé faire ça. Donc c'est un livre de commande, comme je le dis à l'intérieur, c'est la première fois qu'on commandait un livre, c'est un luxe. Hein. Et c'est pour ça que ça m'a permis un petit peu, vu que c'était inattendu d'écrire par lettres, en entrée comme dans un dictionnaire, ça m'a permis un petit peu d'ouvrir à d'autres choses que j'aurais pu écrire j'aurais jamais pu écrire ça de moi-même, en disant tiens, je vais parler de ceci, de ma banlieue, de ma ville, parce que tu m'en as parlé, mais des villes de Lyon, je parle de Toussy, hein, où j'ai vécu, de parle de Courson, évidemment, bon, un petit peu d'Églogny où je suis maintenant. Donc, toi, des choses comme ça, j'en aurais jamais parlé parce que mon enfance, ou des choses, enfin plein de choses comme ça, dont je n'aurais pas fait état parce que certainement que j'aurais trouvé ça, je sais pas, trop intime, je ne sais pas, ou stupide, je ne sais pas. Enfin bon, bref, ça m'a permis un petit peu cette façon d'entrer, d'ouvrir à d'autres choses que je n'aurais pas.
Impossible, avant de laisser place au programme musical de Radion, de ne pas mentionner l'apparition du dernier numéro de Décharge, le numéro 149, avec un dossier préliminaire sur le travail de critique et de belles perspectives de réflexion aussi sur l'influence des notes de lecture dans le devenir du poète et de son œuvre. C'est au sommaire, entre autres, de la revue Décharge, dont notre invité Jacques Morin. Dans notre monde tourmenté et anxiogène, voici, je l'espère, quelques manifestations et événements réconfortants autour du livre dans Lyon. Tout d'abord, à la librairie Voileau, à Avallon, samedi prochain, de 10h à midi et de 15h à 18h, Émilie Villemont dédicace le tome 3 des Dames de Saint-Prix, Sylvie. Le dimanche 27 mars de 10h à 19h se tiendra à la salle des fêtes de Brassy, là c'est au cœur du Morvan, la troisième édition du Salon du Livre de Brassy avec cette année pour invité l'écrivain Didier Cornaille. Pour les passionnés de bande dessinée, je rappelle les 26 et 27 mars prochains au Caveau des Maréchaux, c'est à Semur-en-Auxois, le 6e festival de la bande dessinée. Le club des écrivains de Bourgogne vous invite cordialement à sa prochaine rencontre débat qui aura pour invité Pierre Assouline pour son roman « Vie de Job ». La rencontre se tiendra le mercredi 30 mars à partir de 18h30 dans les salons de l'hôtel Sofitel La Cloche de Dijon. Retour de Wagon Livre, mercredi 30 mars prochain à 21h en compagnie d'un nouvel invité, cette fois devant nos micros Barbara Moreau. Pour ces deux livres, c'est moi Gadine et on parlera surtout du premier tome des chroniques d'une conteuse de mémoire, Je pars et je vous emmène. Moi aussi, je pars, mais c'est pour mieux vous retrouver mercredi prochain sur Radio. Excellente fin de soirée en musique sur le 90.5 et douce nuit. Merci de votre fidélité. Au revoir.